Bienvenue les marques et les smarts dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. C'est votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du célèbre show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné de Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Belle chemise.
Ouais, je vois qu'on s'est habillé en bleu tous les deux aux couleurs de SmackDown.
Exactement, la Blue Team. SmackDown avait lieu le 31 janvier 2017 à Corpus Christi au Texas. Donc nous sommes deux jours après l'incroyable, formidable Royal Rumble que nous avons décortiqué avec toute l'équipe. On en bouffe du catch cette semaine, je t'avoue que là c'est le marathon, je n'en peux plus. J'ai envie de poser des vacances. Cancel Network, hashtag. Au menu de cette semaine, donc John Cena fait partie d'un cercle vicieux. AJ Styles et Ambrose s'affrontent à nouveau. Le Baron se fait trash-talker par le Miz. Naomi a l'arrière-train en feu. Et la division tag team est de retour. Alors, intro, on commence avec AJ Styles qui débarque et qui regarde une vidéo récap du Royal Rumble. C'était plutôt bien fait d'ailleurs. Oui. Il réclame rapidement son rematch, puisque comme vous le savez, il a perdu son titre au bénéfice de l'incroyable John Cena. Mais attention, AJ Styles n'est pas né de la dernière pluie. Il veut un rematch en 1 contre 1. Il veut pas de cette stipulation un peu tordue, la Kelly Elimination Chamber. Shane McMahon et Daniel Bryan ont l'air d'accord, mais ce soir c'est surtout l'occasion rêvée d'annoncer les participants de la terrible chambre d'élimination. Donc on nous annonce d'ores et déjà les participants qui seront enfermés dans cette cage. Ils seront au nombre de 6. John Cena évidemment, puisqu'il sera là pour défendre son titre. Et AJ Styles, Bray Wyatt, Le Miz, Le Baron et Dean Ambrose, ce qui chez moi fait bien 6, le
c'est
compte
ça.
Est bon.
Nous y sommes.
Dean Ambrose, justement, le Lunatic Fringe, qui justement passait par là, il rappelle à AJ Styles leur précédent grief et propose donc un match ce soir, tonight, en 1 contre 1, avec AJ Styles versus Dean Ambrose. Du jamais vu. On se le garde pour la fin, ce match. On avance. Je vous ai parlé de John Cena. John Cena, 16e titre mondial au Royal Rumble. Évidemment, il vient célébrer cet acte, ce fait, cette ceinture au milieu du ring. Un John Cena qui visiblement a lu les reviews sur les sites, puisqu'il semble bien conscient d'avoir probablement délivré dimanche soir la performance de sa vie so far, pour l'instant.
Ouais.
Un match de catch, ça se réalise à deux, donc il ne peut que le concéder, que l'avouer. AJ Styles, son opposant, n'était pas le fameux type lambda, ce gars d'Atlanta qu'il avait décrit lors de leur battle de rap. Non, AJ Styles est le plus grand adversaire qu'il ait eu, en tout cas celui qui a réussi à tirer le meilleur de lui-même, le meilleur de John Cena. Il conclut en prévenant le public et le vestiaire que « The champ is here ». If you want some, come get some. Old school vintage Cena. La musique de la famille Wyatt retentit dans la pénombre. Bray est là, hilar. Il raconte que rien n'a vraiment changé. Évidemment, on voit John Cena avec ce titre. Que tout n'est qu'un cycle vicieux. Voilà, c'est pas le cercle de la vie du Roi Lion, mais on s'y approche. Avec John Cena champion, évidemment. Mais qu'à l'Elimination Chamber, ça va changer. Bray Wyatt étant dans la chambre, il va s'emparer du titre. Et que si pour une raison un peu mystique, John Cena parvient à sortir avec la ceinture, Randy Orton sera là pour l'attendre. Randy Orton, son brother, le frère Randy Orton, sera là pour se charger de retirer le titre à John Cena à WrestleMania. Donc c'est officiel, ce n'était pas forcément très explicite, mais c'était visiblement très tacite. Randy Orton ira chercher, est parti pour aller chercher si ce n'est John Cena, au moins le champion de SmackDown.
C'est ça.
Les deux s'avancent, hein, les deux Wyatt s'avancent, menaçant. Ils sont que deux, hein, évidemment, à ce moment-là. S'apprêtant à prendre John Cena en tenaille sur le ring, quand soudain la lumière s'éteint. Le célèbre hurlement Wyattien retentit. Et c'est Luke Harper qui apparaît aux côtés de John Cena. Il ne faut pas attendre longtemps avant de se rendre compte qu'il n'est pas là pour s'en prendre aux 16 fois champion, mais il est bien là pour régler quelque peu ses comptes avec Bray et Randy Orton. Les Wyatt battent en retraite, mais money, 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 Shane O'Mac débarque, c'est l'heure du tag team player. On nous book un 2 contre 2. Les Wyatt affronteront donc Harper et John Cena. Le match est right now.
Oui, c'est right now.
Luke Harper évite la confrontation pendant un bon bout de temps avec Bray. On sent encore l'emprise du maître sur son élève, sur son du gourou. Le gourou, hein, justement, qui fait tout pour resserrer cette fameuse emprise effritée, hein, depuis les derniers événements qui se sont déroulés ces derniers mois sur le pouilleux au débardeur. Harper passe à tabac Randy Orton. On sent qu'il en a après la vipère. Il
ça,
le
y a
balance
pas de problème,
notamment
ça.
Ouais, sur la table des commentateurs. Je vous fais un résumé assez concis. Hein. Ce n'est pas forcément les 5 points of Hank, mais on s'y approche. Wyatt finit par reprendre le contrôle en fin de match. Il veut placer son sister Abigail. On se retrouve un peu dans une séquence un peu clin d'œil à ce qui s'est passé lors du Royal Rumble.
Mm-hmm.
Mais John Cena intervient. Il place Bray Wyatt dans son double A. Le double A est armé. Randy Orton apparaît. Il exécute le champion d'un RKO fatal. Compte de 3. Orton et Bray Wyatt remportent le match face à Harper et John Cena. Ah, alors, John Cena, le début de ce 16e règne commence pas terrible pour John Cena. Bon, jusqu'à nous, qu'est-ce que tu as pensé donc de cette séquence Wyattienne?
Eh bien, contre toute attente, je vais surprendre pas mal de gens, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont pas trop plu dans toute cette ouverture.
Aïe.
Il y a pas mal de choses qui m'ont pas plu. Bon, c'est des détails. Déjà, j'ai pas trop aimé l'annonce des 6 participants à l'Elimination Chamber. Je trouvais que c'était un peu anodin. Enfin,
ils s'en sont débarrassés, quoi.
Ouais, ils s'en sont débarrassés assez vite. C'est un truc.
C'est dans 2 semaines, n'oublions pas. Hein.
Alors ouais, c'est le problème. C'est le problème de ces calendriers maintenant qui deviennent ingérables pour les pay-per-view. C'est dans 2 semaines seulement l'Elimination Chamber, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que on n'explique pas trop pourquoi est-ce que un tel ou un tel. Bon, grosso modo, ça surprendra personne. Hein, les 6 qui ont été choisis, c'est le gratin de SmackDown, hein, hors Randy Orton, donc c'est le choix est logique. Mais voilà, c'est passé un petit peu inaperçu dans un petit segment backstage, discussion dans le bureau de Shane. Généralement, les Elimination Chamber, on annonce les participants un peu en grande pompe, on fait monter le suspense, voire des matchs de qualif pour certains, parce qu'il y en a certains, je sais pas, par exemple, Bray Wyatt, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est dans l'Elimination Chamber, il a rien fait de mémorable ces derniers temps. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça un poil dommage. La petite promo de Cena, bon alors moi elle me fait plaisir parce que bon bah c'est la promo du champion qui vient se gargariser, mais c'est elle me fait aussi un peu de la peine parce que je trouve que finalement c'est plus toi qui avais raison que moi la semaine dernière entre guillemets, dans le sens où on est revenu finalement Bray Wyatt se fait un petit peu le porteur de mauvaises nouvelles,
ouais.
on est revenu au statu quo. On semblait voir un petit changement de direction et puis finalement on voit Cena qui revient et puis qui dit que voilà, tout le monde est gentil et bravo, bravo, j'ai gagné et tout ça. Donc bon, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce qu'on n'avait pas beaucoup capitalisé sur son changement de comportement, même si le fait qu'il félicite AJ Styles est normal, c'est pas vraiment dans la lignée de ce qu'on avait vu la semaine dernière.
Exactement.
Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, je perds pas espoir qu'on retrouve un peu ce feu qu'il peut avoir depuis son retour dans d'autres promos, mais bon, c'était pas l'enchaînement que j'aurais voulu voir. Et puis troisième petite chose qui m'a dérangé, c'était le fait que, comme tu dis, Randy Orton semble se diriger vers la ceinture de SmackDown. Et ça, pareil, c'est un truc qui est passé un peu comme
Ouais.
une lettre à la poste, qui était voilà, qui était presque entendu, alors que
Alors
pareil.
que notre côté, chez les spectateurs, les auditeurs, les commentateurs, enfin, on était tous là à se poser la question.
Voilà, exactement, tout était possible. On se rappelle, il y a 5-6 ans, quand il y avait deux ceintures, là, c'est pareil, c'est un peu comme l'annonce des participants à l'Elimination Chamber, l'annonce du vainqueur du Royal Rumble, qui est-ce qui va défier, c'était un truc, on attendait, il pouvait y avoir des teasings et tout. Et
C'était
là, en
parfois
fait,
pris dans des storylines, avec
exactement, et là, en
Batista, par
fait,
exemple.
ouais, tout à fait, ouais. Et là, il a même pas laissé le doute planer, en fait, il a même pas dit, fais gaffe, parce que imaginons que tu sortes de l'Elimination Chamber. Je peux choisir de te défier pour machin et tout. Il a même pas laissé planer le doute. C'est je
J'irai
te
te chercher, ouais.
défierai, voilà, j'irai te chercher si tu sors de l'Elimination Chamber, j'irai te chercher. Donc voilà, pareil, je trouvais que c'était un petit peu dommage et un petit peu torché à la va-vite, alors que ça aurait pu. Là pour le coup, que ce soit dans 2 semaines ou pas, on aurait pu attendre un petit peu. Donc voilà, j'ai trois petits trucs qui m'ont gêné, qui m'ont fait que l'intro de SmackDown, j'ai trouvé bon efficace, mais pas transcendante.
Ouais.
Sinon après sur le match. Le match était plutôt bon. Le match était plutôt bon
Qu'as-tu
et moi
pensé de Harper là? Sa prestation
ouais,
était vraiment
exactement.
incroyable,
Ouais,
hein.
j'ai surtout été bluffé par Harper dans ce match parce que bon, Cena a fait du Cena et Bray Wyatt a surtout esquivé les affrontements plus qu'autre chose. Mais Harper a été exceptionnel et nous a laissé entrevoir quelques jolis enchaînements de face plus, hein, parce que beaucoup plus
Ah oui.
rapide, beaucoup plus
La
incisif.
foule était vraiment derrière lui et on sentait qu'il était libéré.
Ouais, donc ça pourrait être très intéressant ce Harper libéré, comme tu dis exactement. Donc c'était plutôt bien. Petit match qui. Le match, rien à dire sur le booking. Ça capitalise bien sur l'histoire en cours et ça nous laisse entrevoir de belles choses.
Ouais, effectivement, pour moi, Harper, c'était vraiment l'homme du match. Et c'est vraiment une bonne gestion de la psychologie, une psychologie de personnage qu'on voit assez rarement à la WWE, avec cette soumission qu'il a encore un peu, cette lutte qu'il a vis-à-vis de Bray Wyatt à plusieurs reprises. Il s'est fait tout petit comme un chien qui se un peu grondé par son maître, mais qui a quand même envie de le mordre. Donc. Alors, je ne t'entends plus là, Giscal, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, pendant que Giscal
C'est bon,
essaie,
ça y est.
ça y est.
Si je clique sur mute, ça va
Ah
pas le
voilà,
faire.
tu t'es fait muter.
Ouais.
Voilà, en petite dédicace
Non, mais
à Ringside.
non, je disais que oui, il se laissait pas faire pour taper sur Orton. Par contre, sur Bray Wyatt, en effet, il voulait pas trop le toucher, hein, quand même.
Ouais, donc c'est vraiment super intéressant pour Harper. Et je te rejoins pour cette mauvaise gestion du post-Rumble et pour la préparation de l'Elimination Chamber. On en reparlera la semaine prochaine. On va voir comment tout ça se décante un petit peu. Alors, on enchaîne ensuite, si tu veux bien, avec quelque chose de plus léger comme ça, ce sera fait. Notre petit Jobber World, on va dire.
Ouais.
Voilà. C'est le Jobber World qui commence avec Carmella et James Ellsworth. Carmella qui avait un match ce soir face à une hipster, croisement entre un hipster, pardon, croisement entre un Rey Mysterio et un Schtroumpf selon JBL. C'est plutôt bien vu.
Ça, pas mal.
Donc, accompagné évidemment par James Ellsworth, un relooké en ado californien, qui nous demande un peu de silence, hein, qui attire un petit peu de heat. Il y a quelque chose à nous dire, donc il annonce tout en rythme l'entrée de sa nouvelle BFF, la fabuleuse princesse Carmella. Le match n'a aucun intérêt. Victoire de Carmella après l'intervention habituelle de l'homme aux 2 points et au zéro menton. Autre match, on va dire, qui peut rentrer dans la case de Jobber Wars. Kalisto a affronté Ziggler pour la 15e fois. Ziggler gagne avec encore, je crois, un super kick. Je me souviens même plus. En tout cas, il passe à tabac Kalisto et tente de lui arracher son masque. Il y parvient quasiment, mais ce qui agace profondément Apollo fucking Crews, comme dirait Giscal, l'homme entré au numéro 22 du Royal Rumble, donc pourchasse vaguement Ziggler qui s'enfuit dans les gradins. Voilà pour le Jobber's World. On n'en rajoutera pas plus. On va passer avec une autre séquence. Voilà, je ne mettrai pas forcément dans Jobber's Worlds, mais on y est presque, puisqu'il s'agit de la division tag team, portée disparue ces dernières semaines. Elle est de retour, avec les American Alpha qui sont backstage, dans leur quête sans succès visiblement de trouver des contenders. Donc ils lancent un open challenge, et ce sont les Ouzo qui répondent les premiers en se dirigeant vers le ring pour rejoindre les porteurs de ceinture. Avant d'être suivi rapidement par The Ascension, puis les Vaudevillains, puis, enfin bref, vous avez compris, toute la division tag team se
C'est
ramène.
ça.
Brawl général qui s'engage. Alors c'est marrant parce que d'habitude, quand il y a deux types qui veulent qu'on doit séparer, on envoie 10 arbitres. Là, on veut séparer 20 mecs, on en envoie 3. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça génère une sorte de rumble match improvisé.
Oui, c'est ça.
Et ce sont Slater et Rhino qui sont les derniers hommes debout sur le ring. Alors à ce moment-là, on se dit, tiens, on nous book un American Alpha versus Slater et Rhino pour l'Elimination Chamber. Sauf que visiblement, si j'ai bien vu un tweet passer, on aura droit à une autre stipulation du type Tag Team Turn Oil Match, là, tu sais. Bon, écoute, pendant que je recherche l'affiche de l'Elimination Chamber, qu'as-tu pensé de cette séquence division tag team? On va pas revenir sur Jobber
Non,
World.
non, ça n'avait pas grand intérêt en effet. Le reste, Division Tag Team, c'est bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'il relance la machine Tag Team qui était quand même nettement mise de côté, hein, essentiellement au profit des filles depuis plusieurs semaines à SmackDown. Les filles avaient trois voire quatre storylines en parallèle avec beaucoup de temps d'antenne autour en parallèle du titre intercontinental et visite majeure. Et du coup, bon, bah forcément, sur un show de 2 heures, les parents pauvres, bah, c'était les équipes. Donc là, ils ont décidé de remettre un peu l'accent sur les équipes, ce qui est bien, parce que c'est vrai que bah, au final, les American Alpha, on a presque oublié qu'ils étaient champions, quoi. Donc c'était quand même une bonne chose de les revoir. Par contre, j'ai l'impression que c'est dommage, c'est un petit peu dommage parce que tout le bon travail qu'ils avaient fait pendant 2 3 mois, bah, finalement de construire des histoires, de construire des équipes petit à petit, de donner un sentiment d'homogénéité dans la division tag team, après finalement le gros bordel post-draft qui était de bah, finalement d'envoyer toutes les équipes tous ensemble et puis on verra bien ce qui sort, de faire des tournois dans tous les sens ou des matchs à 8 contre 8 ou des trucs bordel. Bah, finalement, j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Un peu, on est revenu un petit peu au niveau zéro du booking de la division tag team où, bon, bah, en fait, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes? Bah, on ne sait pas trop. Bon, bah, on va
Balancer tout le monde.
allez, balancer tout le monde et puis on verra bien. On secoue et puis on voit lesquels qui sortent du pot. Et bon, bah là, c'est Slater et Rhino.
En plus, c'est ça, c'est qu'en plus, c'est
Et en
Slater et
plus, c'est
Rhino.
Slater et Rhino, alors que quand on avait vu les Usos sortir en premier, on se dit, ah, ça y est,
Enfin.
on va peut-être avoir la rivalité entre les deux équipes. Et bon, non, pas encore.
C'est ça que j'ai pas trop compris, effectivement. Alors, j'ai retrouvé la stipulation, c'est bien ça. Elimination Chamber, nous aurons droit donc à un tag team turmoil match impliquant donc toutes les équipes, en
À
fait.
toutes les équipes, d'accord.
Voilà.
Bon, bah, tu vois, donc on met tout le monde.
On met tout le monde.
Ils auraient pu nous faire une Elimination Chamber par équipe, ça aurait pu être.
Mais
C'est du jamais
oui, mais
vu, ça aurait
oui.
été du jamais
Bah,
vu.
d'autant plus que voilà, maintenant que c'est à brander SmackDown,
On va faire ce qu'ils
voilà.
veulent, hein.
Faites-nous des Elimination Chamber avec les filles et avec les équipes. Hein. Ce serait quand même fun d'avoir 12 types
Bah ouais, ce
enfermés.
serait drôle.
Les deux dans chaque cage, ce serait très drôle. Mais je suis d'accord avec toi. Gros sentiment de retour en arrière. Voilà, en espérant que l'Elimination Chamber, évidemment, fasse ressortir un prétendant. Parce que j'ai du mal à me dire que personne est allé chercher les American Alpha dans les vestiaires. Toi, pour la ceinture,
Ah non,
enfin,
ça fait 3 semaines
tu dis
qu'on
pas
les
ça en
voyait
ayant les
plus, quoi.
Usos qui sont des heels qui clairement sont prêts à aller les chercher. Hein.
Ça donne l'impression que ça fait un mois que genre les gens chez SmackDown n'en ont rien à faire de la ceinture par équipe. Genre là,
Ouais.
je parle en kayfabe, hein, genre c'est comme si toi et moi on était une équipe à SmackDown là, et ça fait un mois bah on chill, on mange des Cheetos là ou des crackers dans les vestiaires, on se pose pas la question de savoir si on a envie d'un match pour le titre ou pas. Et puis bah là, ils se sont tous réveillés d'un coup. Ah, mais c'est vrai, il y a une ceinture. Allez, c'est parti. Ouais, bon, c'est pas. C'est un peu
Bon,
dommage.
du coup, on va passer à une autre division, justement, la division féminine. Pas sûr qu'il y ait une Elimination Chamber pour les filles non plus. C'est même plus certain. Backstage, Becky Lynch est interviewée avec Naomi. Alors, elle nous, voilà, nous fait un petit speech. Elle raconte qu'elle a l'habitude d'être attaquée par devant, par derrière et maintenant par le passé. Bon, je vous la fais en français, évidemment, en faisant référence à Mickie James. Quant à Naomi, elle annonce que Alexa Bliss va feel the glow, fire. Donc les deux filles sont chaudes pour en découdre. Donc on a donc un match opposant Lynch, Naomi à Mickie James et Alexa Bliss. Donc une configuration assez naturelle. Naomi est tellement en feu qu'elle va finir par s'empaler dans les cordes suite à une espèce de crossbody évité avant de rebondir violemment. C'était assez chaud là cette séquence où elle se jette dans les cordes. Parfois les catcheurs se rattrapent et font la pause. Non, elle a rebondi, elle est repartie directement là où elle venait. Voilà, ça s'enchaîne. Alexa Bliss place son fameux double knees et moonsault knee drop, pardon. Mais ça ne passe pas pour le compte de 3. Becky Lynch et Mickie James sont à leur tour dans le ring. Mickie James place son Rana sur la rookie. La rookie, pardon. La rookie. La rookie.
Rookie.
Hot tag sur Naomi, hein, qui est à ce moment-là le feu au cul, vraiment,
Littéralement.
littéralement. Donc, Springboard Moonsault après toute une séquence de domination de la face. Donc, le Springboard Moonsault, ce fameux John Morrison style, sur Alexa Bliss, pendant que les deux autres se neutralisent. 1, 2, 3, victoire des gentilles, avec Naomi qui assoit un peu plus. Pas sa domination, mais elle a le dessus, en tout cas en ce
Son
moment, sur
statut,
Alexa
hein, ouais,
Bliss.
de challenger.
Voilà, du challenger. Jusqu'à l'où, est-ce que ça t'excite un peu plus que la division tag team, cette histoire?
Ah oui, enfin indéniablement, parce que c'est quand même beaucoup. Enfin, ça vient pas de nulle part là pour le coup, donc c'est quand même beaucoup mieux écrit et il y a une vraie progression au travers des épisodes. Donc là, on est en plein dans le prolongement du Rumble et de la semaine dernière. Naomi a, comme tu dis, le feu au cul, elle a le momentum, comme disent les Américains, hein. Elle a la baraka, tout lui réussit. C'est elle qui a fait le tombé victorieux avec la même prise sur Alexa Bliss encore dimanche. Et donc, bah, la rebelote dans une configuration finalement quasi identique, hein. Il manquait juste Nikki Bella et Natalia. Donc c'est bien, on donne du momentum au challenger. Ça me dérange pas de voir Bliss prendre des tombées quand c'est par équipe comme ça, de prendre des tombées parce que voilà, ça donne justement bah, un max de momentum à Naomi. Et puis de toute façon, Bliss a quoi qu'il arrive un profil quand même de heel, bah, petit gabarit, beaucoup plus tricheuse, beaucoup plus roublarde et tout, elle peut tout à fait s'en sortir en un contre un. Enfin, elle reste crédible pour moi, donc j'ai pas trop de soucis sur les deux victoires de suite de Naomi. Et puis, bah, en parallèle, voilà, Lynch et Mickie James qui se neutralisent de leur côté, qui font monter un peu la tension. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien raconté et j'ai même surtout beaucoup aimé le match. J'ai trouvé que le match était vraiment sympa. C'est assez rare, j'ai même trouvé mieux que le match tag team des mecs. C'est assez rare les tag team féminins un peu random comme ça, je suis pas trop fan. Et là, je trouvais que je sais pas si c'est l'énergie de Naomi ou si c'est les trucs autour du ring, là, la violence entre Becky Lynch et Mickie James, mais je sais pas, je trouve que le tout avait un bon flow. Voilà, c'était très sympa à suivre, très dynamique, pas de temps mort, pas de raté. Donc c'est bien, bon boulot, bon boulot.
Ouais. La séquence hot tag avec Naomi a super bien prise avec le public.
Ouais.
Et c'est vrai que Lynch et Mickie James ont fait le boulot dans un registre un peu plus bagarreuse. Et que bah, tout ça se tient bien. Ces deux rivalités qui se sont mises en place assez naturellement. Et effectivement, c'est bien que que tout le booking et les scénarios partent pas aux toilettes comme avec.
Oui.
Avec les équipes. Et ben on arrive déjà au gros morceau, hein, si tu veux
Oui.
bien.
Oui.
Puisque donc je vous en ai parlé en début de podcast. Dean Ambrose affronte ce soir AJ Styles dans un match qui ne met pas le titre en jeu, le titre intercontinental.
Ça aurait pu
Alors,
être original, mais
ça aurait pu être original, mais peut-être que la fin du match n'aurait pas été la même. Puisqu'on a en plus le Miz au commentaire. Alors, le Miz, on n'a entendu que lui, évidemment.
oh là 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 là,
C'était le festival, hein, le Miz Show. Il fallait suivre. C'est difficile de suivre à la fois ce qui se passait sur le ring et dans nos oreilles. Même si le Miz a quand même toujours ce talent de ramener l'attention sur ce qui se passe dans le ring.
il était un peu sur lui quand même aujourd'hui, hein.
Mais il était quand même un peu sur lui et même un peu trop. On y reviendra. Donc voilà. Donc le match commence entre les deux qui se connaissent évidemment. Très très bien. Hein. Donc AJ Styles prend le contrôle du match, mais Dean Ambrose évidemment ne se laisse pas faire hein, en plaçant quelques clotheslines et ça se finit quelques clotheslines, pardon. Et à ce moment-là, le match a à peine débuté finalement que Baron Corbin, la musique du Baron retentit. Il s'approche du ring, gros regard sur Dean Ambrose, puis il se dirige à la table des commentateurs. On le retrouvera donc à la table des commentateurs, mais je pense qu'il n'aurait jamais dû y aller, puisque grosso modo, il va se faire démonter par le Miz, trash-talker violemment.
Ah, le pauvre, hein. Ouais.
Il était pas bien, hein, le baron.
Il a mal choisi son adversaire.
J'ai pas très bien compris. Je pense qu'il a fait une erreur. En fait, juste, on va continuer sur ce qui s'est passé par rapport
Oui.
au Miz et le baron. Donc, bah, le Miz, évidemment, vendait. Le Miz, voilà, il vendait tout, hein. Il vendait l'Elimination Chamber, il vendait le match, les opposants qu'il allait avoir, mais en même temps, il a pris un malin plaisir à détruire le baron, lui rappelant qu'il avait aucun palmarès, que son André le Giant, ça voulait rien dire, qu'il a jamais été dans une chambre d'élimination, il sait pas ce que c'est, etc. Et le baron, au lieu de se terrer dans un silence qui lui va très bien,
Ouais, il a essayé de
il a
répondre.
essayé de répondre à deux, trois fois, mais voilà.
Ah, il sait pas faire, quoi.
Il sait pas faire, et du
Non.
coup, ça l'a un peu desservi. Et le Miz était peut-être un peu trop. Voilà, il a pas mis le
Un peu,
frein, hein, il a pas mis le frein,
ouais, un peu
quoi.
trop en verve, je pense.
Ouais, et du coup, voilà, ça fait un petit peu de mal au baron. Mais on verra qu'à la fin du match, bah, il a fait ce qu'il savait faire.
Voilà,
Donc,
c'est mieux.
on revient rapidement sur le match. C'était un excellent match, hein, puisqu'on connaît bien hein, la chimie qu'arrive à tirer AJ Styles avec Dean Ambrose. Ça marche très bien entre les deux. Donc, grosse séquence hein, de strike et de clothesline. Corner forearm, superplex, évité par AJ Styles. Ambrose, alors on a AJ Styles qui vient placer Ambrose hein, dans ce fameux torture rack qu'on a vu, qu'on voit dorénavant, enfin plus souvent. Je crois qu'on l'a vu lors du Royal Rumble face à
Oui,
Edge. Tu sais, en même temps,
absolument.
qu'est-ce qu'on n'a pas vu lors de ce
Oh
match
bah,
7
on a
étoiles?
tout vu.
Dean Ambrose, du coup, qui a vu le match s'échappe du torture rack bombe. Styles évite le suicide dive. Ambrose, alors attends, pareil, évite le springboard forearm avec un gros coup de pied dans la tronche. Il arme le Dirty Deeds, mais AJ Styles s'en échappe. Ensuite, tentative de crucifix AJ Styles pour la tentative de tomber. Uchigorochi, je sais pas si je le prononce bien, par AJ Styles pour le compte de deux.
Pas mal.
Dean Ambrose évite le Styles Clash, mais se bouffe un gros pelé kick dans la tronche. Mais il balance son fameux Jawbreaker Lariat sur l'ancien champion mondial. AJ Styles est à terre. Elbow drop press par Dean Ambrose. Ambrose fait un roll-up sur AJ Styles et Corbin et Miz à ce moment-là se mettent sur la tronche, c'est
Ça y
ringside
est,
que ça se
ouais.
passe.
Corbin
On
en a marre.
sent que ça va pas se terminer proprement. Ambrose à ce moment-là, il avait un peu la victoire entre les mains, mais l'arbitre était distrait. Donc bah, Ambrose va voir ce qui se passe. AJ Styles en profite. Styles Clash. 1, 2, 3. C'est AJ Styles qui remporte ce match de 18 minutes et 45 secondes à ce moment-là, ce n'est pas terminé puisque Corbin, le baron, place le End of Days tour à tour sur le Miz et Ambrose,
Allez hop.
alors que AJ Styles part hilar, à moitié hilar, quitte l'arène à moitié hilar, puisque le baron lui lance du doigt un dernier défi. Tu es le prochain sur la liste.
Ouais.
Et c'est ainsi que se termine cette soirée. Giscalou, qu'as-tu pensé de cette séquence finale?
Alors déjà, sur le match, bon, le match était superbe, hein, franchement, match qu'aurait pas renié un pay-per-view. Et comme tu dis, hein, AJ Styles a vraiment... Enfin, je pense que Dean Ambrose ne trouvera pas meilleur adversaire que AJ Styles, hein, parce qu'à chaque fois que les deux se rencontrent, c'est vraiment c'est les rares fois où j'arrive à vraiment apprécier Dean Ambrose dans le
Ouais.
ring. Donc il arrive vraiment à sortir le meilleur, c'est fou. Donc bon. Le match était super. Par contre, bon, aussi super qu'il ait pu être, ce match, j'ai rien vu que j'avais pas déjà vu dans leurs précédents affrontements. Hein. Donc c'était un petit peu le seul souci de ce match, c'était qu'au final, bon bah quand on nous a annoncé en début d'émission Dean Ambrose contre AJ Styles, bon bah c'était bon bah ok super quoi. Enfin en fait c'était un petit peu l'affrontement qui a rythmé toute la fin d'année 2016 aussi bien en pay-per-view qu'à SmackDown parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'affronter. Donc bon c'est difficile dans ces cas-là de vraiment innover. Donc il y avait rien non plus de complètement ahurissant, mais c'était un super match. Bon, y a rien à dire là-dessus. Après sur ce qui s'est passé en ringside, bon bah tu l'as dit, mais Corbin a fait une petite erreur de calcul là dans sa stratégie parce que venir chauffer le Miz aux commentaires, c'est pas un exercice facile pour tout le monde et encore moins pour lui, je pense, parce que vraiment il est pas du tout, il est pas mauvais en promo, hein, mais il est pas du tout bon dans la spontanéité des échanges comme ça,
C'est
dans la
ça.
discussion, et il s'est fait d'apparence en tout cas, ouais, démolir parce que bah, le Miz. Ça fuse, ça part dans tous les sens. Quand Corbin lui disait un truc, boum, t'avais le Miz qui lui en mettait trois autres dans la tête. Donc ça allait beaucoup trop vite pour le Baron qui se faisait bouffer et qui est apparu un petit peu ouais, comme bah, une grosse brute qui a pas de répartie et qui est un peu.
C'est ça, on voyait parfois, il y avait des gros plans sur son visage où il
Ouais, et
était
puis.
la mine des confites, enfin, où il avait, t'as l'impression qu'il avait envie d'être ailleurs, quoi, à ce
Bah,
moment-là.
parce qu'à mon avis, il devait se dire, enfin, il devait sentir dans sa tête qu'il était un peu en train de passer à côté du segment. Donc, bon,
Ouais. Ouais.
du coup, c'était pas facile. Bon, voilà. Après, il s'est rattrapé dans son style à la fin, parce que
Ouais.
son style, c'est ça. Finalement, c'est une sorte, c'est un peu le Roman Reigns de SmackDown, quoi. Non, mais Corbin, on l'aime bien quand il arrive, quand il pète la gueule de tout le monde et qu'il repart, quoi. C'est pas quand il fait des promos, quand il prend le micro, quoi.
Ouais.
Et donc bon bah voilà là il a joué avec le feu, il s'est un peu brûlé hein, parce que le Miz est en feu en ce moment donc il y a pas trop d'histoire. Sinon commentaire d'ensemble bon bah voilà c'était le segment de cette semaine pour booker l'Elimination Chamber on va dire puisqu'on avait quatre participants sur six
Tout à fait.
quatre participants sur six de manière générale moi j'ai je suis assez négatif cette semaine, mais je trouve que c'est pareil. Ça faisait un petit peu match comme ça lancé au hasard, enfin genre
Oui,
avec.
Ambrose, c'est Ambrose qui boucle le match en disant
Ouais.
qu'il a quelque chose, qu'il a du
Unfinished
unfinished
business
business.
avec AJ Styles. J'avais pas l'impression qu'ils avaient un
Mec,
unfinished business.
t'as ta ceinture, chacun est
Oui,
passé à autre chose.
exactement. C'est plutôt moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que au final
Et en plus, il
Ambrose dit
perd.
qu'il Et en plus, il perd. Ce qui m'emmerde là-dedans, c'est qu'Ambrose, en effet, comme tu dis qu'il a des histoires en cours avec AJ Styles. Et en fait, il a surtout une histoire en cours avec un titre qu'il défend pas. Donc, c'est surtout ça le problème. Et personne l'a repris là-dessus. D'ailleurs, le Miz l'a pas repris, je pense, dans les commentaires. Mais bon, ça aurait été peut-être too much de sa part. Mais bon, voilà, ça faisait un petit peu match, un peu booké comme ça, histoire 2, sans vraiment de prétexte. On en rajoute deux autres aux commentaires parce que bon bah voilà c'est l'Elimination Chamber bientôt. Alors bon, l'Elimination Chamber arrive trop vite
Oui,
peut-être,
oui, oui.
elle arrive beaucoup trop vite. Néanmoins, je trouve que cette semaine aussi bien dans l'intro que dans le final, il y avait peut-être mieux à faire pour nous donner un peu plus. pour pas que l'Elimination Chamber s'auto-vende un peu, parce que bon, bah, c'est sûr qu'on a tous envie de voir ce match, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu en deçà de ce qu'on est capable. C'est à force de nous servir du caviar, on s'habitue, hein, c'est ça.
Ouais, j'avoue. Mais là, comme tu le dis, hein, de toute façon, il paye cet
Paye
agenda
ce calendrier terrible.
surchargé, quoi. C'est
Terrible, terrible.
juste. Alors, je sais pas où on en était du planning, mais si l'agenda officiel a été dévoilé pour 2017, j'imagine qu'une bonne partie, en tout cas les plus gros événements, mais est-ce qu'on va l'alléger, là, cet agenda cette année je pense que
Je
l'année
ne
est
sais
quasiment bookée.
pas. Ouais, j'imagine.
Fact-checking à la Amiral Armbar de Giscale.
Alors attends, parce que j'avais regardé déjà la liste des pay-per-view et je
Parce
sais que
que là, on n'a pas le temps de respirer et ça,
non, parce
tout le
que
monde se fait avoir.
ouais.
Tout le monde s'est fait
Alors
avoir cette semaine. Tout le monde.
Raw s'en sort mieux parce que ils ont donc là il y a le 12 février là, donc il y a l'Elimination Chamber, mais après Fastlane c'est un mois plus tard, donc c'est en mars, c'est le 5 mars. Donc bon là on pourra respirer un petit peu. Et puis bah après WrestleMania c'est le 2 avril. Mais pour le moment en fait de ce que je vois moi, il n'y a pas les pay-per-view interbrand qui ont été bookés. Donc on a les dates de Mania, de Money in the Bank, de SummerSlam et compagnie, mais on n'a pas tous les pay-per-view Raw et SmackDown. Donc
Ah d'accord.
je
Bon,
sais pas
bah à
si.
voir. La série, ils auraient pu attendre un petit peu là. Il y avait le temps quand même. On a fait tout le mois de février, tout le mois de mars. Tu mettais fin février l'Elimination Chamber.
Donc bon,
Bon.
après SmackDown aura tout son temps du coup du 12 février jusqu'au 2 avril jusqu'à Mania, puisqu'ils n'auront
Ouais.
plus de pay-per-view.
Là par contre, ouais. Là va falloir sortir les stylos et faire
Ouais, il va
marcher
falloir
les.
sortir les stylos, les gars. Ouais.
Ouais.
Mais bon, voilà, je pense qu'en effet, on paye un petit peu ce rythme effréné. Et malheureusement, c'est sur cette série de pay-per-view brandé, c'est SmackDown qui passe en premier cette fois. Donc, du coup, c'est dur pour eux. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Du coup, le mot de la fin, alors, mon Giscal, ton top, ton flop et ta note pour sanctionner ce premier SmackDown post-Rumble, s'il te plaît.
Eh ben, mon flop, je vais marquer le coup, je vais choquer mon public, mais je vais le donner à John Cena.
Oh
Voilà.
là 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 là.
J'ai été un peu déçu, mais là c'est si je restais purement kayfabe, je serais aux anges, hein, parce que il a gagné son titre, il vient remercier tout le monde, il vient féliciter tout le monde, donc je suis évidemment dans mon for intérieur ravi. Mais sur le vraiment dans l'écriture et dans l'analyse pure, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont un peu drop the ball comme ils disent là, mais ils ont perdu une bonne occasion bah, peut-être de donner un petit peu plus d'épaisseur à ce nouveau John Cena en capitalisant à fond sur son développement des 3 semaines précédentes. Et finalement c'est Bray Wyatt qui vient un petit peu nous dire ce qui est vrai, c'est que bon bah c'est le statu quo est de retour. Donc bon, voilà, c'est mon mini flop de cette semaine, malgré toute ma joie post-Rumble du 16e titre, pour quand même le meilleur catcheur de tous les temps, il faut le dire. Et mon top cette semaine, bah écoute, je vais le donner à Luke Harper. Voilà, je vais le donner à Luke Harper et à la mue du papillon Luke Harper qui s'est échappé de sa chrysalide, puisque c'est souvent, je trouve que c'est souvent plus facile, enfin en tout cas c'est moins impressionnant de voir un catcheur changer son moveset pour un heel turn, parce que souvent bah voilà, on les voit ralentir le rythme, on les voit enlever des prises de leur arsenal, en fait c'est plus comme ça que ça marche, changer un petit peu la psychologie dans le ring et tout, mais de voir une sorte de face turn dans le ring dans le moveset, c'est beaucoup plus impressionnant, parce que c'est vrai que d'un seul coup on se rend compte de tout ce dont le mec est capable, encore plus que d'habitude, et j'ai trouvé que cette semaine c'était particulièrement marqué. Donc voilà, je tire mon chapeau à Luke Harper, qui pourrait être une belle surprise en ce début d'année
Ouais.
2017. Et ma note, je vais mettre juste 3 sur 5 cette semaine. 3 sur 5 parce que, voilà, on a déjà largement débattu sur le fait. Ça reste un épisode relativement facile à regarder avec des développements, mais on est un peu en deçà au niveau des tag teams. On est un peu dans la va-vite sur l'Elimination Chamber. Il y a des petits défauts à droite à gauche. Donc, voilà, 3 sur 5.
Eh ben écoute, moi mon top, c'est Naomi.
Voilà.
C'est Naomi qui a vraiment, on le rappelle souvent, SmackDown, quand t'as 5 minutes pour briller et que il y a 2 semaines
Exactement.
t'étais dans le fond du trou, c'est maintenant ou jamais. Et là, ça a bien marché, le public a bien pris, donc ça veut dire que elle a
La
fait ce qu'il
glow.
fallait. Ouais, exactement. Mon flop, t'as gratté sur mon flop. Allez, je vais être comme toi, je vais taper sur un de mes chouchous, c'est Baron Corbin.
Ah oui, voilà.
Voilà, il a. C'est une erreur, peut-être une erreur de débutant. Il s'est fait avoir par
Il s'est fait coincer.
l'expérience du Miz. Il s'est fait coincer. Il aurait vraiment, s'il avait rien dit du tout, juste le mec qui regarde le match, et
Exactement.
ça aurait
Mais
été parfait.
à la limite, même il aurait même pu parler, mais juste genre c'est plutôt dans la menace, tu vois. Genre, je l'aurais bien vu dire, écoute, le Miz,
Ouais,
tu
mais il a
commences
un
à te
peu fait ça, mais il a
chauffer.
aussi essayé de le bâcher, et ça marchait
Ouais,
pas.
ça marchait pas quand il lui dit. À un moment, c'est le Miz qui lui dit, t'as pas de palmarès, et le Baron Corbin qui lui sort, ouais, mais moi j'ai joué en NFL ou je sais pas quoi,
Oh
genre, mais
là
on s'en fout, on est à la WWE, on s'en bat les steaks de ce
là. Ouais.
que.
Ouais, à un moment, il lui fait pourquoi t'es tout rouge? Il dit au Miz, tu vois, parce que le Miz, il fait. Ah. Et Miz répond, ah, je suis tout rouge parce que je suis excité, parce que je suis prêt, parce que j'ai le feu en moi, parce que.
Ouais, parce que moi, je suis.
Toi, je suis pas en mode huître comme toi, là, toi. Donc, c'est chaud, toi. Peu importe ce qu'il disait, forcément, il se faisait remballer,
À
donc.
chaque fois, il se faisait emballer. C'est
Ouais,
vrai
il
que
fallait
c'est là où
juste
tu
être
vois aussi que le Miz est
menaçant
fort aussi.
et ne. Voilà. Mais bon. Et du coup, ma note, eh ben, je vais mettre 2,75, moi. Hein. Un petit cran en dessous. C'était. Voilà, il y a trop de choses qui. Enfin, on en a parlé. Et, voilà. Pour les mêmes raisons que toi. C'est un lendemain de Rumble un peu. Tiède un peu, toi.
Ouais, je suis d'accord.
C'est difficile de se remettre déjà
C'est
dans
gueule
SmackDown.
de bois du lendemain de soirée du Rumble, un
Ouais,
peu.
c'est difficile, et là en plus ils se sont un peu plantés sur deux trois trucs. Voilà, donc. Mais bon, l'Elimination Chamber, la road to WrestleMania commencera à partir de l'Elimination Chamber, à n'en pas douter. Eh ben, je te remercie, Giscal, pardon.
Écoute, merci à toi, comme toujours.
J'en profite pour dire que tu avais fait un excellent travail de présentation
Oh.
lors du podcast spécial Rumble. C'était quand
Écoute,
même 1h45 qu'il fallait
ouais,
les
putain.
faire.
Ouais, mais bon, j'ai été grandement aidé par le fait que tous les chroniqueurs étaient là, donc je pouvais me délester du coup de
Ouais.
toute la charge d'analyse, donc ça va.
Mais bon, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à l'écouter. Hein, si vous voulez l'écouter en plusieurs parties, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est voilà, pour l'avoir à forfait le montage, voilà, tu as fait du bon boulot. Je suis
Bah,
fier de
écoute,
nous.
tant mieux. Merci.
je vous rappelle que vous pouvez nous suivre toutes les semaines sur YouTube pour la version vidéo, mais également sur iTunes et PodCloud pour la version audio, le podcast audio. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook pour ne louper aucune news. Je vous invite également à commenter pour nous donner, partager par exemple votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown? Et également partager, hein, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux évidemment.
Oui, partagez, partagez.
Voilà, et à nous mettre des bonnes notes, des pouces, que ça soit sur YouTube, PodCloud ou iTunes, pour que voilà, on monte dans la hiérarchie du podcasting world. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour déjà le Go-Home Show de
Eh oui,
SmackDown de l'Elimination
déjà.
Chamber. C'est du
Oh
grand
là là, on ne sait
n'importe
plus où
quoi.
donner de la tête.
Salut Giscal, à la prochaine et salut à tous.
Salut tout le monde.
Je te laisse parce que je pars dans 3 minutes pour écraser des piétons.